La radio adventiste Béthanie de Bétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit.
Bien-aimés dans le Seigneur, amis de la prière, bonsoir. J'espère que vous avez une bonne journée par la grâce de Dieu. C'est un plaisir d'être ensemble à nouveau ce soir pour continuer avec cette semaine de prière qui gravite autour des sept paroles prononcées par Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus a prononcé combien de paroles, frères et sœurs? Sept paroles. Je vous ai parlé pendant la semaine du nombre 7. C'est un nombre sur lequel, semble-t-il, même que le monde... Alors, c'est un nombre sur lequel Dieu a beaucoup misé. Dieu aime ce chiffre, Dieu aime ce nombre. Voilà pourquoi la Bible parle de... dit que dans la Genèse, la création s'est déroulée en sept étapes, et Dieu, il a prononcé 10 paroles. Ce soir, nous allons voir la 5e parole prononcée par Jésus sur la croix. La première parole de Jésus, c'était quoi, frères et sœurs? La première parole, c'était quoi? Je voudrais entendre tout le monde. La première parole disait quoi, frères et sœurs? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La deuxième parole disait quoi? Aujourd'hui, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais je vous ai montré que le larron n'est pas allé au paradis le même jour parce que Jésus lui-même n'y est pas allé. Tandis que Jésus est ressuscité le dimanche qui a suivi la Pâque, Jésus a dit à Marie, ne me touche pas. Alors, le vrai sens, c'est pas ne me touche pas, mais il faut prendre cette phrase dans le sens oriental. C'est ne me retarde pas. C'est pas ne me touche pas, mais c'est ne me retarde pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus n'est pas allé au paradis le vendredi. La troisième parole de Jésus, c'est une parole d'affection. Il dit, femme, voilà ton fils. Et il dit à Jean, voici ta mère. Et la quatrième parole que nous avons vue hier soir, disait quoi, frères et sœurs? Cette parole disait quoi, frères et sœurs? Elohim, lama sabachthani. La sixième parole, c'est tout est accompli. Et la septième parole prononcée par Jésus, c'est Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus prononça cette parole. Et ce soir, nous allons voir la cinquième parole. La première parole de Jésus, on l'appelle aussi parole de pardon. La deuxième parole de Jésus, on l'appelle aussi parole de salut. La troisième parole, c'est la parole d'affection. La quatrième parole, c'est la parole d'angoisse. La parole d'angoisse, Eli, Eli, lama sabachthani. Je vous ai dit que Eli, c'est la traduction hébraïque, n'est-ce pas? C'est une citation qu'on a prise du psaume 22. Où le psaume 22 commence par ces paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu a préféré, il écrivait pour les Juifs, Matthieu a préféré la traduction hébraïque. Marc, quant à lui, qui n'était pas un disciple, il ne faisait pas partie du cercle intime des disciples de Jésus, il n'a pas opté pour la version hébraïque, mais il a opté pour la version araméenne. Voilà pourquoi il a rapporté cette parole toute faite en araméen pour dire Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ok, maintenant, Jésus a prononcé plusieurs paroles. La première parole, c'est la parole de pardon. La deuxième parole, c'est la parole de salut. La troisième parole, c'est la parole d'affection. La quatrième parole, c'est la parole d'angoisse. La cinquième parole, c'est la parole de souffrance. La sixième parole, c'est la parole de victoire. Victoire, tout est accompli. Le grec dit tetelestai, tetelestai, tout est rendu parfait. Et la septième parole prononcée par Jésus sur la croix, c'est la parole de contentement. Septième parole, parole de contentement. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus n'a pas dit mon âme, mais il a dit mon esprit, le pneuma en grec. Il a remis son identité à son Père. Son identité. J'aurai à vous parler de cela. Maintenant, ce soir, nous allons voir la cinquième parole. Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, fut le seul à rapporter cette parole dans son évangile. Marc en a parlé, mais il n'a pas rapporté la parole dite par Jésus, la cinquième parole. Jean fut le seul à rapporter cette parole dans son évangile et elle y occupe une place juste, car elle met en évidence non seulement l'humanité du Sauveur, mais également sa gloire divine. Jean, c'est seul monde qui parlait de parole ça, qui rapportait parole ça, cinquième parole là, côté que Jésus dit, j'ai soif. Qui c'est, cinquième parole là, dit qui ça, frère et soeur? Jésus dit qui ça? J'ai soif. M'daramé nous lis avec dans Jean 19. Ouvrons nos Bibles ensemble. Dans Jean 19, nous lisons les versets 28, 29 et 30. Lisez avec moi. Dans Jean chapitre 19, nous allons voir cette cinquième parole prononcée par Jésus sur la croix, appelée aussi parole de souffrance. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Vous y êtes? Qu'est-ce qu'il a dit? Lisez avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je voudrais entendre tout le monde. Lisons le texte, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Consommé. J'ai soif. Verset 29. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean fut le seul à rapporter cette parole de Jésus, comme je l'ai dit tantôt. Quand Dieu exhale sa soif, Jésus a exhalé sur la croix sa soif. Jean a donné à cette parole, li bay a parole ça, yon place centrale. Et li mette en évidence, parole ça mette en évidence non seulement humanité de Jésus. L'homme dit humanité, Jésus c'était un vrai homme, vere homo, vere deus. Il était non pas un homme et un Dieu, mais il était l'homme Dieu. Le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 prononce cette parole peu avant d'incliner la tête et de rendre l'esprit. Jésus prononce ces paroles ça. Côté que le dit, qui ça, frères et sœurs? Cinquième parole a dit qui ça? J'ai soif. Jésus prononce ces paroles ça. Et une fois le prononcé, ça quoi c'est Jésus t'apprend le mourir. Jean dit que Jésus dit tout est accompli et il expira. J'ai soif. Comment on peut comprendre ça, Askoya? Comment comprendre la soif de Jésus, frères et sœurs, vous qui êtes là? J'ai soif, c'est une phrase brève, une phrase qui très courte. Une phrase qui laconique, n'a pas dit succincte aussi. Une phrase qui riche de sens. Je pense que c'est deux phrases qui piquent dans la Bible. Première phrase, là, c'est Jean 11, côté que je te dis, verset 25. Jésus pleura. 35, merci, Jésus pleura. Et la deuxième phrase, c'est Jean 19, côté que Jésus dit parole ça. Il dit qui ça, frères et sœurs, j'ai soif. C'est deux phrases ça, qui t'assemblent, deux phrases qui picoutent dans la Bible là. Mais Jean 19 là, côté que Jésus dit j'ai soif, comment comprendre la soif de Dieu? Comment expliquer cette soif de Jésus? Quand Dieu exhale sa soif, il a exhalé sur la croix, le sommet le plus haut du monde, sa soif. Jésus-Christ dit j'ai soif. Une phrase brève, on te dit ça déjà, qui très courte, qui laconique, qui riche en sens, qui expressive et qui tragique. Le créateur du ciel et de la terre a les lèvres sèches. Comment comprenez-vous cela? Le créateur du ciel et de la terre a les lèvres, comment, frères et sœurs? Il a les lèvres sèches. Le Seigneur de gloire réclame à boire. Le Seigneur de gloire réclame à boire. N'était-ce pas lui qui avait dit à la femme samaritaine, femme, donne-moi à boire? Et il avait dit à la femme plus tard, femme, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, ça t'a passé, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive et que cette eau jaillirait en toi jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est Jésus qui avait fait cette déclaration à la femme samaritaine. Le fait que cette parole lui figurait parmi les sept paroles que Jésus prononçait sur la croix, eh bien, ça baille à parole ça, y a une signification précieuse. Assoyez bien-aimés dans le Seigneur. Nous pourrons voir à travers la Bible qui signification, ou du moins qui leçon, nous capables de tirer de parole ça que Jésus prononçait sur la croix. La cinquième parole, appelée aussi la parole de souffrance. Nous capables de tirer, assoyez, frères et sœurs bien-aimés, cette leçon de ce cri de Jésus sur la croix. Combien de leçons ai-je dit, frères et sœurs? Cette leçon. Jésus prononça cette parole. Eh bien, à travers cette cinquième parole prononcée par Jésus sur la croix, nous allons tirer cette leçon. Cette leçon de ce cri de Jésus sur la croix. La première leçon à tirer ce soir, à travers cette déclaration, quand Dieu exhale sa soif, la soif de Jésus, appelée aussi la parole de la souffrance, comment expliquer la soif de Dieu? Ce soir, nous allons tirer cette leçon de ce cri de Jésus sur la croix. La première leçon à tirer, c'est une preuve de son humanité. Voulez-vous répéter après moi, frères et sœurs, la première leçon? M'attendez, c'est quoi, frères et sœurs? C'est une preuve de son humanité. Le Seigneur Jésus est Dieu. Le Seigneur Jésus est Dieu. Mais il est aussi véritablement homme. Comprenez bien ce que je vous dis. Le Seigneur Jésus est Dieu. Par le fait qu'il s'est incarné, Jésus était encore Dieu. Parce que Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Être Dieu un jour équivaut à rester Dieu toujours. Jésus était Dieu auprès de son Père. Et en s'incarnant, il était encore Dieu. Bien qu'il ait voilé sa gloire, mais cela n'a pas enlevé sa divinité. Il était encore Dieu. Le Seigneur Jésus est Dieu. Mais il est aussi véritablement homme. Parce que le latin dit vere homo, vere deus. Vrai homme, vrai Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas un homme divinisé. Écoutez bien ce que je dis. Le Seigneur Jésus n'est pas un homme divinisé, ni un Dieu humanisé. Le Seigneur Jésus n'est pas un homme divinisé, ni un Dieu humanisé. Il est le Dieu homme. Il est le Dieu, comment frères et sœurs, le Dieu homme. De toute éternité, il a été Dieu. De toute éternité, il a été Dieu. Et désormais, il est homme à jamais. Amen. Il est homme, il a pris notre nature parce qu'il était venu pour me sauver, pour te sauver, pour réaliser, comme je le dis souvent, frères et sœurs, du haut de la chair, pour réaliser l'énoncé, comment? L'énoncé contractuel, hein? Aidez-moi. L'énoncé, comment? Contractuel, disjonctionnel et conjonctionnel. L'énoncé contractuel. Jésus, ah, il a pris, c'est une preuve de son humanité. Quand il a crié sur la croix, j'ai soif. Quand Dieu exhale sa soif, eh bien, la première leçon à tirer ce soir, c'est une preuve de son humanité. Le Seigneur Jésus n'est pas un homme divinisé, ni un Dieu humanisé. Il est le Dieu homme. De toute éternité, il a été Dieu et désormais, il est homme à jamais. Et lorsque Dieu s'est incarné, lorsqu'il s'est incarné, Jésus pas de suspendre bon Dieu. Il n'a pas non plus renoncé à ses attributs divins. Même s'il dépouillait véritablement, ou du moins volontairement, de la gloire qu'il avait auprès du Père avant la création du monde, Jésus pas jamais suspendre était Dieu. Mais qui s'est passé? Tandis qu'il a revêtu la nature humaine, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu un homme. Il a pris notre nature. Jésus pas de apparence humaine, frères et sœurs, comme certaines théologies voudraient le faire croire. Jésus n'avait pas l'apparence d'un homme, il était un homme dans toute intégralité. Il était homme, vere homo, vere deus, il était Dieu. Il n'était pas un homme et un Dieu, mais il était l'homme-Dieu. Il y aurait ça en théologie, union hypostatique, ou du moins union théanthropique. Deux natures qui fait un seul, il y aurait ça symbiose. La première leçon à tirer ce soir, quand Jésus dit « j'ai soif », c'est une preuve de son humanité. La première leçon, c'est quoi, frères et sœurs? Je n'entends pas. La première leçon, c'est quoi, frères et sœurs? C'est une preuve de son humanité. Jésus revêtit la nature humaine, hein, mais il se revêtit d'une humanité parfaite. Il a pris notre nature en se faisant homme, ce qu'il ne possédait pas avant. Même jour on soif, même jour on a des désirs, l'homme dit des désirs, Mbappé dit foncièrement désir de faire le sexe. Bon oui, ça n'a pas privé tout, parce que Jésus était un homme. Toute tendance peut-être qu'on a gagné, tendance peut-être ou fatigué, tendance pour reposer, Jésus t'a gagné tout parce qu'il était un homme. Jésus, parfois, le compte fatigué. Jésus, parfois, lui invite les disciples pour y aller, pour y aller reposer. Pour quelle raison? La Bible dit, c'est parce que Jésus était un homme. Il n'avait pas l'apparence d'un homme, mais il était un homme. Donc la première leçon à tirer ce soir, à travers ce cri de Jésus sur la croix, quand il dit « j'ai soif », quand le Seigneur exhale sa soif, c'est parce que c'est une preuve de son humanité. C'est une preuve de son humanité. Le texte de ce soir dit « j'ai soif ». Jésus, soif. Ce texte révélait bien son humanité. Dieu n'a pas soif. Dieu n'a pas soif. Les anges non plus n'ont pas soif. Les saints qui seront sauvés n'auront pas soif. Apocalypse 7, verset 16, le dit clairement. Ici-bas, frères et sœurs, Nous avons soif parce que nous sommes des créatures humaines et que nous vivons dans un monde de douleur. Ainsi, mes frères et mes sœurs, Christ eut soif sur la croix parce qu'il était un homme. Christ eut soif sur la croix parce qu'il était quoi, frères et sœurs? Il était un homme, selon Hébreux 2, le verset 17. La première leçon, c'est une preuve de son humanité. La deuxième leçon à tirer de ce cri de Jésus sur la croix, quand Jésus dit « j'ai soif », son cri, la deuxième leçon à tirer, c'est l'intensité des souffrances du Christ. L'intensité des souffrances du Christ. Deuxième leçon, c'est quoi, frères et sœurs? Attendez. Deuxième leçon, c'est quoi, frères et sœurs? C'est l'intensité des souffrances. Première leçon, c'est qui ça lié? Première leçon. Première leçon, c'est qui ça? C'est une preuve de son humanité. La deuxième leçon, c'est l'intensité des souffrances du Christ. Le cri de Jésus sur la croix exprime tout d'abord sa souffrance corporelle. Sa souffrance corporelle. Pour bien comprendre ce cri de Jésus sur la croix, il faut que nous passions en revue, frères et sœurs, son arrestation et ses tortures physiques. Pas que personne qui va comprendre l'intensité de ses souffrances, ou du moins qui est capable de comprendre, frères et sœurs, le cri de Jésus sur la croix quand il dit j'ai soif, s'il pas passé en revue l'intensité de ses souffrances, s'il pas passé en revue son arrestation et ses tortures physiques. Après la Sainte Cène que Jésus a instituée, vous savez que autrefois on parlait de la Pâque. Et je vous ai dit que la Pâque regardait en combien de directions, frères et sœurs? Attendez, en combien de directions? Deux directions. En arrière vers l'Égypte et en avant vers la croix. Maintenant Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avant sa mort? Il a remplacé, aidez-moi, il a fait quoi? Il a remplacé la Pâque par la Sainte Cène. De même que la Pâque regarde en deux directions, la Sainte Cène quant à elle regarde combien de directions aussi? Deux directions, en arrière vers la croix et en avant vers la parousie de Jésus. Après que Jésus fit instituer la Sainte Cène, Jésus allait à Gethsemane et me dit que clairement que Gethsemane, c'est la décision qu'on prend. Il est vrai que dans le grand conseil divin, avant la création du monde, Jésus a été destiné, ou du moins prédestiné à venir mourir pour l'humanité, au cas où l'homme aurait péché. C'est ce qui a été prévu, c'est ce qui a été planifié. Mais c'est à Gethsemane que toute bagarre a joué. Et ça qui fait que certains auteurs qui disent que Gethsemane, c'est l'antichambre de la croix. C'est là que la décision a été prise. Après la Sainte Cène, Jésus allait à Gethsemane. Et là, pendant une heure, il a prié. Il a connu la plus atroce des agonies. À Gethsemane, Jésus a connu la plus atroce des agonies. Satan a dit, mon chapeau mourir pour tout le monde, ça y est, bonne grâce à eux. Il va l'abandonner, il va quitter, il va observer vrai. Satan a découragé. Et Jésus, son humanité, voilà pourquoi il a prié. Il a demandé aux disciples de prier pour lui. Et lui-même aussi, il est resté en prière. Et il a dit dans sa prière, Père, s'il est possible. Vous connaissez la prière, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas, toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Après la Sainte Cène, Jésus allait à Gethsemane. Et là, pendant une heure, il a prié. Il a connu la plus atroce des agonies. Livré par un traître, Judas, arrêté comme un bandit, comme un criminel, après des heures d'attente pénibles, il est fouetté. Jésus a reçu 40 coups moins 1. La loi disait que prisonnier n'a pas qu'à prendre plus que 40 coups. Et ça fait, il dit, il a reçu 40 coups moins 1. Ça fait combien, frères et sœurs? 39 coups de fouet. Il a été flagellé, maltraité, condamné, maltraité, le dos ensanglanté, portant sa croix sous une chaleur torride, cloué sur la croix de 9h à midi. Il y a eu sous les rayons impitoyables du soleil, et à cette heure, Jésus s'est écrié, j'ai soif. Qu'est-ce qu'il a dit, frères et sœurs? Il a dit, j'ai soif. Soif ça, que Jésus gagne, n'est pas une soif ordinaire. Derrière soif ça, caché quelque chose de plus profond que la soif physique. Je dois vous rappeler aussi que le Sauveur vient de sortir de 3 heures d'obscurité. Obscurité pendant lesquelles Dieu a détourné sa face du supplicié. 3 heures, de midi à 3 heures, la Bible dit qu'il y eut des Nous voilà. Qu'il y eut quoi, frères et sœurs, des ténèbres sur toute la terre. Madame White, dans son commentaire, dit que le Père était là, devant la croix, enveloppé de ténèbres. Les anges aussi étaient là. Le Père a voilé sa gloire pour ne pas détruire les humains. Quand les ténèbres envahirent la terre pendant 3 heures de temps, le Père était là. Les anges des cieux aussi étaient là. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Père a caché sa face. Voilà pourquoi Jésus a crié « Eli, Eli, lama sabachthani ». Dieu ne pouvait pas voir son fils à cause des péchés du monde qui reposaient sur lui. Dieu hait le péché. Mais quand même, il était là. L'abandon vécu par Jésus est vécu par lui dans une assurance paradoxale de sa paternelle proximité. Jésus a dit « J'ai soif ». Soif, ça pas ordinaire, frères et sœurs. Jésus a enduré, hein, il a enduré des souffrances physiques. Jésus vient de sortir aussi de 3 heures d'obscurité. Et il subit toute l'ardeur de la colère divine déversée sur lui. Le cri de souffrance physique révèle donc l'intensité du conflit spirituel qu'il vient de traverser. La deuxième leçon à tirer de ce cri de Jésus, c'est l'intensité des souffrances du Christ. Sa soif est la conséquence de l'agonie de son âme sous l'effet de l'ardente colère de Dieu. Je dis bien sa soif, la soif de Jésus est la conséquence de l'agonie de son âme sous l'effet de l'ardente colère de Dieu. Troisième leçon à tirer de ce cri de Jésus, sa cinquième parole sur la croix. Troisième leçon à tirer de ce texte, de ce cri, son respect pour les Écritures. La troisième leçon, c'est quoi, frères et sœurs? C'est quoi? Bon, voici nous là. La première leçon, c'était quoi? La première leçon, c'était quoi? C'est une preuve de son humanité. La deuxième leçon à tirer, c'était quoi, frères et sœurs? L'intensité de ses souffrances. La troisième leçon à tirer, son respect pour les Écritures. D'ailleurs, mais ça a arrêté dans la tête, nous, son respect pour les Écritures. Pour nous bien saisir, cinquième parole, ça que Jésus prononçait sur la croix, il faut rester dans le contexte du texte. Le texte dit sous la plume de Jean, après cela, c'est une formule de transition, passage d'un événement à un autre événement. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé. Dit, afin que l'écriture s'accomplit, j'ai soif. Qui ça le dit, frères et sœurs? Il dit, j'ai soif. En Jean 19, verset 28. Jésus, là, il dit, j'ai soif. En Jean 19, verset 28, lui fait référence à une citation qui était faite déjà des millénaires de cela au psaume 69, qui décrit comment Jésus t'a mouru. Là, nous lisons dans psaume 69. Nous allons lire ça. La caïnon, après. C'est une citation que Jésus citait dans psaume 69 qui était faite, qui était racontée de façon saisissante, hein, la passion de Jésus. Ok? Au psaume 69. Il ne restait plus à Jésus qu'à boire le vinaigre. Seul ça qui était pour te faire. Jésus devait boire le vinaigre, comme c'est dit au psaume 69. Et pour ce faire, pour Jésus capable de faire que l'écriture l'a accompli à l'endroit de lui-même, il a dit, j'ai soif. Sur la croix, frères et sœurs, Jésus lui fait preuve d'une remarquable maîtrise de soi. Écoutez bien ce que je dis. Sur la croix, Jésus fait preuve de quoi, frères et sœurs? D'une remarquable maîtrise de soi. Pendant 6 heures passées sur la croix, Jésus est resté avec l'esprit clair. Il est resté avec l'esprit clair et la mémoire intacte. Et pendant que Jésus sur la croix, t'as semblé que Jésus tellement voulait bien accomplir mission, hein, la pose cette question, est-ce que pas gon bagay dans écriture là, pas oublié dit? Est-ce que pas gon bagay qui t'est prédit avant au sujet de lui-même, au sujet de sa mort, que le pas dit? Et voilà pourquoi, frères et sœurs, sur la croix, Jésus, il a fait preuve d'une maîtrise de soi, preuve remarquable de maîtrise de soi. Pendant 6 heures passées sur la croix, Jésus était avec l'esprit clair. Jésus est resté avec sa lucidité. Il était lucide. Il n'avait pas perdu la tête. Il avait la maîtrise de soi pendant 6 heures passées sur la croix. Il est resté avec l'esprit clair et la mémoire intacte. Et il a voulu, frères et sœurs, que tout ce qui a été écrit à son sujet soit accompli. Il a voulu que tout ce qui a été écrit dans les prophéties, dans les psaumes, à son sujet soit accompli. Il ne lui restait qu'à boire le vinaigre et le fiel Voilà pourquoi Jésus a dit sur la croix, la cinquième parole disait quoi, frères et sœurs? J'ai soif. La troisième leçon à tirer de ce cri de Jésus sur la croix, c'est son respect pour les Écritures. La première leçon, c'était quoi, frères et sœurs? C'est preuve de son humanité. M'appréciez-nous là. La deuxième leçon, c'est quoi? L'intensité des souffrances du Christ. La troisième leçon, c'est quoi, frères et sœurs? Son respect pour... Je n'entends pas. Son respect pour les Écritures. Jésus te voulait que tout ça que tu as écrit au sujet de lui-même, dans les psaumes, dans les prophéties, il a accompli minutieusement. Et ça fait, c'est seule parole qui t'a été, qui peut être accomplie. C'est prophétie qui dit que on lui donnera à boire du vinaigre et du fiel. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai soif. Il te voulait que tout ça que tu as écrit au sujet de lui-même, dans les Écritures, il a accompli. La quatrième leçon à tirer. La quatrième leçon à tirer, c'est sa soumission à la volonté du Père. Quatrième leçon, c'est quoi, frères et sœurs? Sa soumission à la volonté du Père. Bien-aimé, écoutez bien. N'était-ce pas Jésus qui avait fait jaillir de l'eau du rocher dans le désert pour les Juifs? Vous vous rappelez de cela? Vous vous rappelez de cela, frères et sœurs? N'était-ce pas lui qui avait dit à la femme samaritaine, si tu connaissais quoi? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, ou t'as mangé le bois et m'as bon de l'eau, pas t'as? J'ai soif encore. Quatrième leçon, sa soumission à la volonté du Père. Bien-aimés frères et sœurs, le Sauveur a soif. Mais rappelez-vous, tandis qu'il a soif, il détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus était Dieu, encore Dieu, pleinement Dieu. Jésus aurait pu étancher sa soif de par lui-même. Jésus était capable de passer soif là, peut-être parle, pour qu'on parle, s'il le voulait, sur le champ. C'est lui qui avait fait jaillir de l'eau du rocher pour étancher la soif des Israélites dans le désert. Il dispose toujours des mêmes ressources. C'est lui qui avait changé l'eau en vin lors des noces à Cana. Mais il n'opère jamais de miracle dans son intérêt pour son confort personnel. Dans cause contraire, ce qui a été dit, c'est que Jésus ne doit faire rien pour sortir tête de situation. Jésus devait rester dans la soumission. Il devait rester dépendant de son Père. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu étancher sa soif de par lui-même, mais il est resté avec sa soif. Il n'opère jamais de miracle dans son intérêt ou pour son confort personnel. Pourquoi reste-t-il pendu à la croix avec les lèvres desséchées? C'est uniquement, frères et sœurs, parce que dans le livre qui exprime la volonté de Dieu, il est écrit qu'il doit être assoiffé. Dans le livre qui exprime la volonté de Dieu, il est écrit qu'il doit être assoiffé. Et que pour étancher sa soif, on lui donnera du vinaigre à boire. Christ vint sur la terre pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il se soumet à lui. Amen. Jésus est venu sur la terre pour faire quoi, frères et sœurs? Pour faire la volonté de Dieu. Jésus était capable de passer soif là, mais il va faire ça. Parce que s'il fait la sortie d'un contrat, la craser plan salut, Jésus devait rester dans la dépendance de son Père. Il devait rester dans la soumission. Voilà pourquoi Jésus, sur la terre, il a appris l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance. Il n'a pas dû faire rien pour le sortir de nos situations difficiles. Voilà pourquoi, frères et sœurs, sur la croix, Jésus n'a rien fait pour étancher sa soif. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix, Jésus a fait connaître sa soif. Non pas pour l'étancher. Écoutez bien ce que je dis. Sur la croix, il a fait connaître sa soif, non pour l'étancher, mais pour que l'écriture soit accomplie. Jésus, quand il dit j'ai soif, pas parce qu'il avait soif effectivement, mais il le dit, c'est parce qu'il voulait que l'écriture soit accomplie à son sujet. Et pour apaiser ma soif, comme disait le texte, pour apaiser ma soif, nous allons nous lire ça avec, dans Psaume 69, verset 22. Lisons ensemble ce texte. Psaume 69, verset 22. Nous allons voir ensemble ce que dit la Bible ce soir. Lisons ensemble ce texte. Psaume 69, le verset 22. Ouvrons nos Bibles pour lire ensemble ce texte. Psaume chapitre 69, verset 22. Qu'est-ce qui est écrit, frères et sœurs? M'attendez, nous allons tout le monde. Psaume 69, verset 22. Ça dit, frères et sœurs? Ils mettent du fiel dans quoi? Dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, qui ça vous fait? Il m'abreuve de quoi, frères et sœurs? De vinaigre. Des paroles qui ont été dites 1000 ans à l'avance sur Jésus. Ce psaume a été écrit par David, chanté par David, David a prononcé ces paroles, mais ce sont des paroles prophétiques, des paroles qui concernent le ministère de Jésus, qui concernent sa passion. Jésus sur la croix, il a fait connaître sa soif, non pas pour l'étancher, mais pour que l'écriture soit accomplie à son sujet. Parce que le texte disait clairement, texte que nous venons de lire, psaume 69, verset 22, pour apaiser ma soif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, frères et sœurs? Ils m'abreuvent de vinaigre. Ok, maintenant, je vous ai parlé déjà de quatre leçons. La première leçon, c'est quoi? La première leçon tirée de ce texte, de ce cri, c'est quoi? C'est une preuve de son humanité. La deuxième leçon, c'est quoi, frères et sœurs? L'intensité des souffrances du Christ. La troisième leçon, c'est quoi? C'est son respect pour les Écritures. La quatrième leçon, c'est quoi, frères et sœurs? C'est sa soumission à la volonté du Père. La cinquième leçon à tirer ce soir, la sympathie du Christ pour son peuple souffrant. Cinquième leçon. Je vous ai parlé de sept leçons à tirer de ce cri de Jésus sur la croix. La cinquième parole, ou la parole de la souffrance. La cinquième leçon à tirer, c'est la sympathie de Christ pour son peuple souffrant. La croix lui montrait que Dieu n'a pas ignoré la souffrance, non. Car la Bible dit, dans la personne de son Fils, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Selon Ésaïe 53, verset 4, Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous ne pouvez pas dire amen pour ça, frères et sœurs. Bon Dieu, pas ignorer souffrance nous. Il y a des gens qui disent, mais si Dieu est bon, pourquoi permet-il le mal? S'il est bon, pourquoi tant de gens souffrent sur la surface de la terre? Mais je voudrais que vous sachiez ce soir que souffrance qu'on endure et que le monde l'a gagné, lui fait bon Dieu plus mal passer nous-mêmes. Parce que les hommes n'ont pas été créés pour souffrir. Nous avons été créés pour vivre heureux. Mais malheureusement, Adam et Ève se sont laissés séduire par Satan. Et depuis lors, la souffrance est devenue le lot de la race humaine. La mort est entrée, la souffrance, le péché et la misère. La Bible ce soir, à travers la croix, nous montre que Dieu n'ignore pas nos souffrances. Car dans la personne de son Fils, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, selon Ésaïe 53, verset 4. La croix, frères et sœurs, lui révélait que Dieu n'est pas indifférent à notre détresse. Dieu n'est pas indifférent à notre détresse. Et c'est pas sans raison que bon Dieu mettait des anges à nos côtés pour nos sécurité. Le psalmiste dit clairement, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait comment, frères et sœurs? Attendez, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Au psaume 121, il a dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Attendez, frères et sœurs, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Est-ce que vous conscient soit si vous avez vu ces grâces, bon Dieu, frères et sœurs? Pas parce que c'est gros chrétien, pas parce que c'est gros ancien, gros pasteur, pas parce que c'est belle petite fille, belle garçon, parler français bien, c'est pas ça qu'il faut là, je dis. Pas parce qu'on a voyagé, fait le tour du monde qu'il faut là, mais si on va vivre, c'est la grâce de Jésus, frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas indifférent à notre souffrance. J'entends souvent des gens qui disent, mais pasteur, pourquoi Dieu permet le mal? Pourquoi? Et il y a un philosophe, Leibniz, qui a dit que si Dieu permet le mal, c'est sans doute pour empêcher de plus grands maux et pour obtenir de plus grands biens. C'est ce qu'il a dit, Leibniz, dans un livre de philosophie que j'ai lu. Et j'ai ce livre à la maison. C'est ce qu'il a dit. Si Dieu permet le mal, c'est pour empêcher de plus grands maux, M-A-U-X, pas M-O-T-S, mot M-A-U-X, et obtenir de plus grands biens. Ok? C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi Dieu permet le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi tant de gens souffrent sur la face de la terre? Bien-aimés, Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Le croyez-vous, frères et sœurs? Vous le croyez-vous, frères et sœurs? La croix révèle que Dieu n'est pas indifférent à notre détresse et à notre angoisse. Jésus, à Gethsémané, c'est l'antichambre de la croix. Et c'est là que la décision a été prise. Parce que Jésus pouvait retourner au ciel. Quand Judas est venu avec la cohorte pour arrêter le Fils de Dieu, Jésus leur dit, qui cherchez-vous? Et ils répondirent, Jésus. Et Jésus leur dit, c'est moi. Et j'aurai à vous parler de ce texte. Et quand il dit, c'est moi, Jésus a dit, ego eimi. Et quand il dit ego eimi, ego c'est moi. Voilà pourquoi on dit l'égocentrisme, on dit égoïste. L'ego c'est moi, c'est le moi, c'est le moi, c'est moi. Mais il dit eimi, eimi c'est la première personne du verbe être en grec qui est traduit par je suis. Quand il dit je suis, frères et sœurs, moi je suis. Il a cité le nom qu'il avait en Exode avant la création. C'est comme s'il dit aux hommes, je suis le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et personne ne peut m'arrêter au nom de Jésus. Et voilà pourquoi le Seigneur, quand il a dit ego eimi, les hommes ont reculé et sont tombés par terre. La divinité a été transpercée, hein, a transpercé l'humanité de Jésus. Jésus aurait pu retourner au ciel, mais s'il choisit de retourner au ciel, vous et moi nous serions perdus à jamais. Mais il n'est pas allé, il est resté. Voilà pourquoi la Bible dit, je donne ma vie. Jésus a donné sa vie. Et dans Jean 2, verset 19, Jésus a dit, détruisez ce temple. Vous connaissez ce texte? Détruisez ce temple et en trois jours, ça l'a fait. Nous pas là. Détruisez ce temple et en trois jours, ça l'a fait. Je le relèverai. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est incarné. Il a souffert lui-même. La croix déclare que Dieu n'est pas insensible à la douleur, car Jésus en a fait l'expérience. La croix déclare que Dieu n'est pas insensible à la douleur, parce que Jésus en a fait l'expérience. Ce soir, êtes-vous tenaillé par la souffrance? Jésus le fut aussi. Ce soir, êtes-vous incompris, mal jugé, mal perçu? Jésus le fut aussi. Vos proches et vos plus chers, se sont-ils détournés de vous? Jésus le fut aussi. Êtes-vous dans l'obscurité ce soir, frères et sœurs? Je ne vous connais pas parfaitement. Jésus le fut lui-même pendant 3 heures, de midi à 3 heures, selon Hébreux 2, le verset 17. La 5e leçon, c'est la sympathie de Christ pour son peuple souffrant. La 6e leçon à tirer de ce texte, frères et sœurs, la 6e leçon, c'est l'expression d'un besoin universel. La 6e leçon, c'est quoi, frères et sœurs? C'est l'expression, comment, d'un besoin universel. Faisons une petite récapitulation. La première leçon, c'est quoi? Parlez-moi. Preuve de son humanité. La 2e leçon, c'est quoi? L'intensité des souffrances du Christ. La 3e leçon, c'est quoi? Son respect pour les Écritures. La 4e leçon, c'est quoi? La soumission à la volonté du Père. La 5e leçon, la sympathie de Christ pour son peuple souffrant. La 6e leçon, c'est quoi? L'expression de besoin universel. En tant qu'humain, parfois, nous sommes tenaillés par la soif. Et j'ai appris en biologie que le corps humain est constitué de 70% d'eau. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai lu. C'est ça? Je dis la vérité? C'est ça, c'est ce qui est écrit, c'est une vérité vraie. Bien-aimé, en tant qu'humain, parfois, nous sommes tenaillés par la soif. Nous avons soif. Et quand nous avons soif, nous devons boire de l'eau pour que notre soif soit étanchée. Si votre âme crie sa soif, je suis heureux de vous dire que quelqu'un peut satisfaire votre soif ce soir. Amen, frères et sœurs. Si votre âme crie sa soif, quelqu'un peut étancher votre soif. Jésus avait dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire, dos moi pein, une demande ponctuelle, séance tenante. Mais la femme n'était pas sur la même longueur d'onde que Jésus. La femme faisait de la biologie et Jésus, quant à lui, fait de la théologie. La femme dit, mais Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Hein? Le puits est profond parce que le puits mesure 40 mètres de profondeur. D'où aurais-tu donc cette eau? Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette eau deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En réalité, est-ce que Jésus avait soif effectivement? Quand il dit à la femme donne-moi à boire, je ne crois pas que Jésus avait soif. Mais je dirais que si Jésus avait soif, la soif de Jésus allait dans une autre direction. La soif de Jésus, c'était de changer la vie de cette femme pour l'éternité. Amen, frères et sœurs. Ce soir aussi, si vous êtes tenaillé par la soif, Jésus est le seul qui peut vous aider à étancher cette soif, frères et sœurs. Amen. Il est le seul. Je suis heureux de vous le dire ce soir. Quelqu'un peut vous satisfaire. Il était mort, mais il a transcendé la mort et l'a englouti dans sa victoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transcender la mort. Jésus avait dit, détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Ce soir, je suis tenté de poser une question. Est-ce que Dieu peut mourir? Si je dis non, n'est-ce pas limiter Dieu? Parce que cette question a divisé certains de mes professeurs à l'UNA, à Dikini, là où j'ai étudié la théologie. Certains d'entre eux disent clairement que Dieu ne peut mourir. Dieu ne peut mourir. Mais il y a un autre qui a fait son doctorat récemment qui dit que Dieu est mort. Oui, il peut mourir. Je suis tenté de le dire aussi. Je ne peux pas mettre cette mort sur le même pied d'égalité que nous qui parlons de la mort, parce que Dieu, il peut transcender la mort, parce que Jésus a dit, détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Dieu peut mourir et transcender la mort. Je donne ma vie, a-t-il dit, afin de la reprendre. Il est Dieu. Bien-aimé, si vous avez soif ce soir, Jésus peut étancher votre soif. Il était mort, mais il a transcendé la mort et l'a englouti dans sa victoire. Et il dit en Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous. Je n'entends pas. Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Qui êtes fatigués et chargés. Et qui ça l'a fait pour nous, frères et sœurs? Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Hein? Car je suis comment? Je suis doux et humble de cœur. Par contre, qui est pour chercher à soi? Et quand Jésus parle de repos, ce n'est pas le repos du sabbat qu'il parle dans ce texte. Ce n'est pas le repos du sabbat. Bien-aimés, parfois nous avons des difficultés. Nous sommes en proie de sérieuses difficultés. Nous avons des problèmes. Nous ne pouvons pas payer parfois notre loyer. Nous ne pouvons pas payer parfois les frais scolaires de nos enfants. Parfois, nous n'avons même pas d'argent à manger. Nous n'avons rien à nous mettre sous la dent. Nous avons des problèmes. Nous avons des gens qui veulent à tout prix nous détruire. Des gens qui veulent à tout prix nous donner le coup de grâce. Sans que nous leur ayons fait quoi que ce soit. Des gens qui n'ont pas besoin de faire rien pour le haïr ou le juste ou le parler. Ça ne va pas arriver. Nous voyons ça. Au moins, on dit qu'on ne parle pas, on ne parle pas, on ne parle pas pour le détruire. Mais ce soir, quel que soit le problème où tu as gagné, conseille qu'à bosser, allez à Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Amen. Allez à Jésus, il peut vous comprendre. Jésus aussi a dit en Matthieu 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Qu'est-ce qu'il a dit, frères et sœurs? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Vous qui n'êtes pas encore sauvés ce soir, ne rejetez pas le Sauveur, car si vous mourrez dans vos péchés, vous crierez votre soif pendant l'éternité. Si vous mourrez dans vos péchés, vous crierez votre soif pendant l'éternité. Jésus a étanché la soif de la femme samaritaine, et cette femme qui était une voleuse de mari, cette femme qui était indexée constamment dans la ville, qui menait une vie dure, parce qu'elle volait les maris des autres femmes du quartier, et les autres femmes la haïssaient. Et voilà pourquoi cette femme, quand les autres femmes venaient puiser de l'eau très tôt le matin, mais cette femme, quant à elle, était venue seule parce qu'on disait du mal d'elle partout dans la ville. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus a étanché sa soif, frères et sœurs, et la femme est devenue une évangéliste à la gloire du Seigneur. Elle s'est rendue dans la ville pour dire aux autres, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Et beaucoup vinrent à Jésus. Et beaucoup ont accepté Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimés, ne rejetez pas le Sauveur, parce que si vous le rejetez, vous allez mourir dans vos péchés et vous crierez votre soif pendant l'éternité. Si la soif physique est intense et insupportable au bout de 3 heures, en quoi? Quelle sera la souffrance d'une soif qui ne sera jamais étanchée? Si la soif physique est intense et insupportable au bout de 3 heures, en quoi? Quelle sera la souffrance, frères et sœurs, de celui, hein, d'une soif, de celui qui ne sera jamais étanché. La 7e leçon que nous allons tirer ce soir de ce texte, la septième leçon, c'est l'énoncé d'un principe permanent. Septième leçon, c'est quoi, frères et sœurs? L'énoncé d'un principe permanent. Dans un certain sens, Jésus continuait soif. Il a dit, j'ai soif à la croix, j'ai soif. Et on lui a donné du vinaigre à boire. Le boisson proposé à Jésus sur la croix était une sorte de drogue, son drogue littéraire, un drogue à effet anesthésique. Et selon la perspective sociétale, pour bien dire, selon la perspective sociétale, C'était une mesure qu'on prenait en faveur des suppliciés, des gens qui mouraient en croix. Certains disent, certains théologiens disent, c'est une mesure humanitaire en faveur des suppliciés. Quand on a donné à Jésus du vinaigre et de la myrrhe à boire, eh bien, c'était une sorte de drogue et Jésus n'a pas voulu boire. C'était une boisson proposée aux crucifiés pour atténuer leur souffrance. C'était une mesure humanitaire en faveur des suppliciés, une sorte de drogue, mais Jésus ne l'a pas bu. Jésus ne l'a pas bu. Jésus ne l'a pas bu parce qu'il voulait mourir avec toute sa lucidité. Jésus voulait mourir avec l'esprit clair. Voilà pourquoi il n'a pas bu. La septième leçon, dans un certain sens, Jésus continue encore ce soir à avoir soif. Il crie à nous tous qui sommes là ce soir, j'ai soif. Jésus a soif, frères et sœurs, de quoi ce soir? Il a soif de l'amour. Il a soif de quoi, frères et sœurs? Il a soif de quoi? De l'amour et de l'attachement des siens. Septième leçon, l'énoncé d'un principe permanent. Jésus continue à avoir soif et il a soif de l'amour et de l'attachement des siens. Jésus soupire après la communion de ceux qu'il a rachetés par son sang. L'amour n'est jamais comblé tant qu'il ne suscite pas une réponse et un amour en retour. L'amour n'est jamais comblé tant qu'il ne suscite pas une réponse et un amour en retour. En Apocalypse chapitre 3, verset 20, le voyant de Patmos dit ceci. Apocalypse 3, verset 20. Lisez avec moi ce texte, frères et sœurs. Qu'est-ce qui est dit? Apocalypse 3, verset 20. Lisons ensemble le texte. Qu'est-ce qui est dit? Voici, je me tiens à la porte. Et je fais quoi? Et je frappe. Si quelqu'un fait quoi? Entend ma voix et ouvre quoi? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On va pas dire amen pour ça, frères et sœurs. Voici, je me tiens à la porte. Dans ce texte, c'est un texte, écoutez bien, nous sommes à la septième église et le texte débute ainsi. Voici ce que dit l'amen. Dès qu'on voit amen, amen c'est le mot de la fin. Donc nous sommes à la fin, la septième église. Et ce qui est bizarre dans le texte, Jésus se trouve à l'extérieur de l'église. Parce que, comprenez bien le texte, c'est comme une ironie. Parce que Jésus devrait se trouver à l'intérieur de l'église, pas à l'extérieur. Et il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Jésus ne force pas la porte, il ne va pas la forcer. Et ce que j'aime dans le texte, c'est que le mot hébreu utilisé, c'est le mot d'apak. D'apak dans le texte, ce mot qui signifie en français frapper avec violence. Vous comprenez cela? Voici je me tiens à la porte et je frappe. Jésus devrait se trouver à l'intérieur, mais chose bizarre, il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Et cette église s'est glorifiée. Et se glorifier pour se dire, bon, je suis la Odyssée, je suis un peuple juste. Et le Seigneur a dit à l'église, tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi quoi? De l'or éprouvé par le feu. Et après cette médication donnée par Jésus, au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe avec violence la porte. Et il dit, si quelqu'un, vous comprenez cela? Si quelqu'un fait quoi? Entend ma voix et fait quoi? Et ouvre la porte, ça va passer, frères et sœurs. J'entrerai chez lui, je souperai, comment? Avec lui et lui avec moi. Gemoun qui là, ça fait longtemps, bon Dieu a cherché pour qu'on communion avec vous, mais pas jamais qu'à joindre nous. Gemoun qui l'a assoué, ça fait longtemps, Jésus a cherché pour le tête à tête avec vous, pour parler avec vous entre quatre yeux, mais pas jamais qu'à joindre nous, frères et sœurs. Et ce soir, dans cette lettre adressée à l'église de la Odyssée, Laos, Dikaios, peuple juste, le Seigneur frappe la porte, il frappe cette porte avec violence. Le mot, c'est le mot d'apak, en hébreu, frapper avec violence, il frappe la porte et il supplie, il dit, voici, je me tiens à la porte. Le Seigneur n'est pas au milieu de son peuple, mais il est au dehors. Il est derrière la porte et il supplie de l'ouvrir. Il s'est considéré dans le texte comme un mendiant qui supplie, comme un étranger malvenu qui supplie. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, le Seigneur ne force pas la porte. Mais il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre quoi, frères et sœurs, ouvre là la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte dit, j'entrerai, comment? J'entrerai chez lui. Ce que j'aime, c'est une tête à tête. Bon Dieu, papa, discuter affaire devant l'autre monde, frères et sœurs, parce que moi-même dis ça. Si bon Dieu t'a pas vu li moun l'église, bagala ta bred. Nous pas comment ça me dire là. Frère, si bon Dieu t'a pas vu li moun l'église, qui est-ce qui t'a prêté, frères et sœurs? La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus pas quoi porter affaire. Jésus son monde qui gain discrétion. Jésus gain discrétion. Gain de bagarre ou dit Jésus, li pas vanté. Et pas gain de bagarre non, pas gain ou dit Jésus la mettre dehors. Et ma prend exemple Judas parmi les disciples. Judas était voleur. C'est lui-même qui trésorier disciples. Nous pas comme ça. Il était le trésorier. L'argent n'a pas semblé ensemble, c'est Judas yo bay kembel. Judas toujours a cassé dans cobla, prend la donne. Jésus connaît ça. Jésus pas jamais vilil. Jésus pas jamais dit rien qui mal. Jésus aurait pu la vilir, mais il ne l'a pas fait. Bien-aimés frères et sœurs, si vous pas servi bon Dieu, qui est-ce pour servir encore bien-aimé dans le Seigneur? Hein, répondez-moi. Pierre te dit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, assoyez papa vili ou, mais au contraire, il invite au nom tête à tête. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe la porte et il ne cesse de frapper. Il frappe même la porte de ton cœur avec violence. Et il dit, si quelqu'un, voyez, on a utilisé cette conjonction de subordination qui marque une hypothèse, une condition, qui marque aussi une intensité, une gradation, qui marque aussi, quoi frères et sœurs, qui marque quoi aussi? Vous n'êtes pas là. Hein? Si un grammaire marque une hypothèse, une condition, si marque une intensité, une gradation, si aussi, c'est la septième note dans le domaine musical. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, le Seigneur ne force pas la porte. Voyez, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Chez lui, je souperai avec lui. Le repas le plus important en Orient, au Moyen-Orient, c'est pas le déjeuner, c'est pas le dîner, c'est le souper. Le repas le plus important. Et le Seigneur dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Gen de bagay, c'est tête à tête pour régler la bon Dieu, frères et sœurs. A fait sauver, moun pas besoin comme ça, c'est pour régler à fort à l'éternel, parce que le salut est personnel. Est-ce qu'on a ça, frères et sœurs? Et ce que j'aime dans le texte, j'aurais à prêcher sur ce texte ici, si le Seigneur me prête la vie. Il dit, voyez, dans le texte, il y a deux portes. Voyez, dans le texte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ça c'est la porte d'en bas. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et lui avec moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et après avoir dit cela, dans Apocalypse 4, verset 1er, Jean a vu une autre porte. Regardez bien le texte. Il dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ça dit quoi? À celui qui court le risque d'ouvrir la porte d'en bas, le Seigneur lui promet de lui ouvrir la porte du ciel. Amen, frères et sœurs. Mais il faut que vous preniez ce soir ce risque d'ouvrir la porte d'en bas. Parce que l'ouverture de cette porte ne dépend pas de Jésus, mais dépend de toi, dépend de vous, dépend de nous. Et si nous avons pris cette détermination d'ouvrir la porte d'en bas, le Seigneur nous promet qu'il ouvrira la porte d'en haut, la porte du paradis, et nous serons sauvés pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, pour terminer, septième leçon tirée de ce cri de Jésus, parole de la souffrance, l'énoncé d'un principe permanent. Chers amis, le Christ a encore soif de l'affection des siens. Le Sauveur trouve dans la communion avec nous quelque chose qui nourrit son cœur et désaltère sa personne. Oui, je reprends. Le Christ a encore soif de l'affection des siens. Le Sauveur trouve dans la communion avec nous, frères et sœurs, quelque chose qui nourrit son cœur et désaltère sa personne. Et cette chose-là, c'est notre dévotion et notre amour. Notre dévotion et notre amour. Bien-aimés, la Bible dit, frères et sœurs, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés,
Personne sur la terre ne peut te sauver. Ta maman ne peut pas le faire. Ton père ne peut pas le faire. Ton mari qui t'a dit oui le jour de votre mariage ne saurait le faire. Le président de la France ne peut pas le faire. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, ne peut pas le faire. Le président des USA, Donald Trump, ne peut pas le faire. Le président, le premier ministre du Canada, j'ai oublié son nom, hein? J'ai oublié son nom, ne peut pas le faire. Mais ce soir, bien-aimé, celui-là seul qui peut vous sauver, c'est Jésus et Jésus seul. Et si vous allez à Jésus, il va transformer votre vie. Il va étancher votre soif. Vous n'aurez plus jamais soif. Parce que le texte dit clairement que Dieu n'a pas soif, les anges n'ont pas soif, et les saints aussi qui seront sauvés n'auront plus soif. Parce que le texte dit, voici, je ferai toutes choses nouvelles. Le Seigneur sera avec nous dans la ville. Nous le servirons et nous verrons sa face pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.